Bonjour à chacun.
Merci d'être venus si nombreux encore ce matin et merci pour votre compréhension face à ces recommandations, à ces consignes qu'on a pu vous partager. Dans une grande consultation qui a eu lieu du 13 mars au 31 juillet 2018, 27 000 citoyens français ont répondu à la question suivante. Comment mieux vivre ensemble ? Dis à ton voisin, comment mieux vivre ensemble ? Surtout en cette période. Et ils ont formulé, ces 27 000 citoyens ont formulé 2600 propositions. 2600 propositions. Et elles ont été classées en 16 grandes idées. Et voici les deux premières que je vais simplement vous énoncer. La première grande idée est la suivante. Encourager la solidarité entre générations et avec les personnes isolées. Ça, c'est la première grande idée qui a recueilli le plus de nombre de propositions, si vous voulez, et de voix. Et la deuxième idée a été réinventer les lieux de vie, les personnes âgées, les lieux intergénérationnels. Et j'ai trouvé les réponses à cette étude très intéressantes, très pertinentes pour nous, parce que cette question du mieux vivre ensemble est une réflexion qui aujourd'hui anime bon nombre de débats, de cercles, d'associations, et qui est une réalité dans notre contexte français, mais même au-delà, puisqu'il y a aussi des slogans que vous trouvez, par exemple, l'Europe pour mieux vivre ensemble. Vous trouvez aujourd'hui des écrits, des ouvrages, apprendre à mieux vivre ensemble, des écoles en santé pour la réussite de tous, des magazines qui font la une avec ce slogan « Vivre ensemble, mieux vivre ensemble », avec bien sûr des relations interreligieuses aujourd'hui qui se sont multipliées, le dialogue interreligieux. Il y a aussi bien sûr le mieux vivre ensemble pour resserrer les liens sociaux. Et je me souviens de cet entretien que j'avais eu avec l'ancien maire de Mantes-la-Jolie, Monsieur Vialet, il y a maintenant 8 à 10 ans, et il me parlait de l'évolution de la ville de Mantes-la-Jolie depuis 1995. Et il m'expliquait la transformation qu'il y avait eu dans cette ville par le travail sur l'humain, par plus de proximité, de chercher à comprendre, de connaître l'autre, de faire attention au repli sur soi, notamment en temps de crise, plutôt que de partager, de respecter l'autre, des relations également entre communautés religieuses. Il m'avait posé cette question, quelle relation avez-vous, monsieur le pasteur, avec les autres communautés religieuses de Mantes-la-Jolie, et au final de me dire de garder une juste vision plus de mieux vivre ensemble. D'où le titre de ce message ce matin, « Mieux vivre ensemble, l'Église locale ». Nous sommes dans cette série de messages que nous avons entamés sur « Vivre l'Église locale ». Et donc, j'ai juste rajouté deux mots, « mieux vivre ensemble l'Église locale ». Vous êtes avec moi ? J'ai cru que je vous avais perdu un instant. Vous êtes attentifs. Peut-être, et je l'espère, vous vous souvenez de la définition que nous avions vue dans le premier message concernant l'Église locale. Mais je vais, par amour, vous la rappeler pour que nous soyons ensemble, pour ceux peut-être qui n'étaient pas là le 16 février, eh bien, se la mettre en mémoire ou la visualiser. Jonathan Liman, un pasteur qui a écrit sur ce sujet, dit « L'Église, une Église locale est un groupe de chrétiens qui se réunissent régulièrement au nom de Christ pour manifester officiellement leur appartenance à Jésus-Christ et à son royaume par la prédication de l'Évangile, les ordonnances de l'Évangile, c'est-à-dire le baptême, la Sainte Cène, et pour veiller les uns sur les autres. » Et dès le début de l'Église qu'on appelle primitive, la première Église de rassemblement de chrétiens, eh bien, nous lisons dans Actes 2, 42, ils s'attachaient à écouter assidûment, régulièrement, l'enseignement des apôtres. C'est ce que nous transmettons encore aujourd'hui. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous transmettons l'enseignement des apôtres. Et il est dit à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Mieux vivre ensemble, l'Église locale, nécessite un engagement. La Bible nous dit que pour créer une communauté chrétienne aimante, il nous faut à la fois la puissance de Dieu, de son Saint-Esprit, et nos propres efforts. La puissance de Dieu, son Esprit en nous, et nos propres efforts, nos choix, nos engagements. L'un ne va pas sans l'autre. Nous ne sommes pas des marionnettes. Dieu veut faire avec nous, en nous et avec nous. Et vivre une vraie communion relève du défi. Reconnaissons-le. Vivre une vraie communion relève du défi, celui des relations. Et cela sur les trois grands axes relationnels de la vie. Il y a la relation avec Dieu, il y a la relation avec nous-mêmes, et il y a la relation avec les autres. Et c'est le grand commandement qui résume, vous le connaissez, toute la loi et les prophètes qui nous en parlent. Et d'ailleurs, même Xavier en a fait allusion tout à l'heure. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Malheureusement, beaucoup de personnes évoluent dans des contextes ou des familles où les relations sont mauvaises, dans l'un ou dans les trois axes. Donc, ils ont du mal à créer, à développer, à entretenir de bonnes et de saines relations avec les autres. Ça peut arriver dans un couple, ça peut arriver dans un foyer, ça peut arriver dans une équipe de sport ou au travail, dans une famille et même, disons-le, parfois dans la famille de Dieu. Heureusement, la Bible, dans le Nouveau Testament, avec l'apôtre Paul, nous donne des instructions à ce sujet. Et Paul dira à Timothée, « Je t'écris cependant tout cela afin que, si ma venue devait être retardée, tu saches en attendant comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. » Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est « Souhaitons-nous mieux vivre ensemble au sein de notre Église locale ?» C'est-à-dire vivre des relations plus profondes au sein de notre Église. Alors, si telle est la réponse à votre question, ou si vous réfléchissez encore, il faut faire des choix parfois difficiles et prendre des risques. Et est-ce que vous êtes prêts avec moi à étudier ces choix ce matin? Oui, il y en a quelques-uns qui sont prêts à étudier. Sinon, je vous libère, hein, vous pouvez aller vous promener. Mais je sais que vous êtes venus pour apprendre, pour vous nourrir, pour comprendre, pour avancer, pour progresser avec Dieu comme je le désire également. Alors je vous propose d'étudier ensemble quatre choix ce matin qui vont aller dans la continuité des deux messages que Xavier nous a prêchés sur les deux dimanches précédents. Mieux vivre ensemble, l'Église locale, je crois, réclame de la sincérité, réclame de l'humilité, réclame de l'amabilité, et réclame des rencontres régulières. Nous allons aborder ce premier choix ce matin. Mieux vivre ensemble, l'Église locale, réclame de la sincérité. La plupart des gens qui nous entourent n'ont personne qui les aime suffisamment pour leur dire la vérité. Parce que parfois, c'est vrai, elle est difficile à entendre. Alors, ils continuent à vivre de façon destructive. Souvent, nous savons ce qu'il faut dire à quelqu'un, mais nous avons peur. La Bible nous demande de dire la vérité avec amour. Dans la sagesse, il y a l'amour. Parce que sans transparence, il n'y a pas de vraie communauté. Nous devons avoir le courage de dire la vérité avec amour. Et Salomon disait, celui qui répond franchement donne une preuve de son amitié. Proverbe 24-26. Il est nécessaire d'aimer suffisamment pour avertir celui ou celle qui est tenté ou qui a mal agi. Nous pouvons nous limiter, bien sûr, à des relations superficielles, par peur de conflit, pour protéger un faux sentiment de paix, par souci de ne pas faire de vagues. Alors on se tait, on enterre le problème. Mais le résultat, c'est que le problème n'est pas réglé et que la personne est frustrée. Cela peut créer même une ambiance malsaine et favoriser les rumeurs. Et Paul propose toujours notre ami Paul, le pasteur Paul, l'apôtre Paul, celui qui a tellement parlé, qui a fondé, qui a implanté des églises, et qui a géré, qui a mis en place des responsables, et qui a donné des recommandations justement sur la manière de nous comporter au sein de l'église et de l'église locale, va dire aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 25, « C'est pourquoi défaites-vous du mensonge, rejetez tout faux semblant ou hypocrisie, on l'avait entendu la fois dernière. Que chacun de vous aborde son prochain en toute vérité. Ne sommes-nous pas ensemble, membres les uns des autres, dans un même corps ? La véritable communion, que ce soit dans un couple, que ce soit avec les enfants, avec nos enfants, que ce soit entre amis ou à l'église, est intimement liée à la franchise dont on fait preuve. Si nous n'avons pas le courage de parler des problèmes et de vouloir les régler, nous ne serons jamais proches les uns des autres. Une fois que le conflit est réglé, alors nous pouvons nous rapprocher les uns des autres. Parce que nous avons appris à regarder en face nos désaccords et à les résoudre. Proverbe 28, verset 23 nous dit « Celui qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur, plutôt que l'homme au langage flatteur. » Quand on a des amis, ce n'est pas seulement pour nous dire ce que nous avons envie d'entendre. Quand la parole de Dieu dit, et ce chant aussi qui le dit, « Le véritable ami aime en tout temps », le véritable ami saura t'encourager et saura te dire quand c'est bien, mais il saura aussi te dire à un moment que peut-être tu devrais penser ou considérer autrement les choses. Maintenant, la franchise ne nous autorise pas à dire n'importe quoi, à n'importe quel moment, au risque de blesser les autres inutilement. Les Écritures affirment qu'il faut attendre le bon moment et dire les choses de la bonne manière. Dieu nous demande de nous parler les uns aux autres comme les membres d'une famille qui s'aiment. Malheureusement, là aussi, nous le voyons, nous le constatons, des milliers de personnes ont été détruites par le manque de franchise. Même des communautés chrétiennes par manque de vérité dite dans l'amour. Alors l'apôtre Paul va écrire sévèrement aussi à l'église de Corinthe. Dans sa première lettre aux Corinthiens, vous pourrez lire ça à la maison si vous voulez, ou en réécoutant ce message par Internet, au chapitre 5, versets 9 à 12. Et il va leur rappeler la responsabilité de la communauté chrétienne. Que nous ne sommes pas, et j'ai apprécié le témoignage que Tracy a pu nous donner, que l'Église n'est pas appelée à s'isoler du monde, mais d'avoir une attitude responsable et authentique au sein de notre communauté, à l'intérieur, ce qui sera un témoignage pour l'extérieur. Et c'est pourquoi aussi nous avons partagé ces recommandations ce matin. Nous devons d'être franc, d'être honnête, il y a un problème auquel la société fait face, auquel nous sommes dans la société, nous faisons face. Et je pense que nous devons avoir un témoignage responsable et authentique entre nous. Ce qui sera pour l'extérieur un bon témoignage. Parce que si vous avez entendu comme moi les informations, certains médias ne se sont pas privés de dire, d'afficher que le problème dans l'Alsace, c'est le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin là-bas, venait d'une église évangélique, presque de quelques illuminés qui se sont rassemblés, en grand nombre, sans faire attention, et maintenant ça s'est répandu partout. Heureusement, cette église a aussi pris le soin de corriger, ou en tout cas d'avoir une communication pertinente, et nous voulons éviter quelques désagréments, et je pense être responsable dans notre façon d'être. Mieux vivre ensemble réclame donc de la sincérité, mais réclame également de l'humilité. L'humilité est vraiment une aide pour les relations et pour mieux vivre ensemble dans la communion fraternelle. La Bible dit dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 5, « Et vous tous !» Donc nous sommes concernés, hein ?« Et vous tous, nous tous !» Dans nos relations mutuelles, revêtons-nous d'humilité. Car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » L'arrogance, la suffisance, l'orgueil détruisent la communauté. L'orgueil empêche même la grâce, écoutez bien, l'orgueil empêche la grâce de Dieu d'agir dans notre vie. Nous recevons cette grâce divine, quand nous admettons humblement que nous en avons besoin pour changer, pour guérir, pour grandir, pour aider les autres. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour vous aider, pour vous aimer. Vous avez besoin de la grâce de Dieu pour me supporter. Ma femme me le dit tous les jours. Bon, parfois elle ne le dit pas, c'est moi qui dois le percevoir. L'humilité, c'est une manière de vivre sensée et sécuritaire. Nous pouvons développer, cultiver chacun pour notre part cette humilité. Comment ? En admettant nos limites, en admettant nos points faibles, en supportant les faiblesses des autres, en acceptant les critiques constructives et en considérant les autres. Alors là, c'est sûr que la barre, elle commence à s'élever, en considérant les autres supérieurs à nous-mêmes. Waouh ! C'est Paul qui le dira, hein ? Encore une fois. Parfois, il nous chatouille, ce Paul, quand même. Hein ? Il va loin dans ses propos. C'est un radical, quand même, Paul. Hein ? Autant il était radical lorsqu'il agissait au nom d'un Dieu qu'il croyait servir, autant alors sa conversion a été radicale, et autant je pense ses propos semblent radicaux, mais sont remplis d'amour et de vérité pour construire l'Église. Et Paul dira dans cette lettre aux Romains, chapitre 12, verset 16, que vos sentiments vous rapprochent les uns des autres. Vivez ensemble. Donc vous voyez le slogan qui est d'actualité, prend son origine et sa source, en fait, dans la Bible. Rien de nouveau sous le soleil. C'est juste que si on était bien attentif aux enseignements bibliques, on vivrait cette réalité de vivre ensemble en bonne harmonie, du mieux vivre ensemble que nos contemporains recherchent, que la société recherche, avec ses propres capacités, ses propres ressources. Et Paul dira d'ailleurs aussi aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 et 4, « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » Alléluia ! Est-ce qu'on va apprendre, vous et moi, à regarder notre frère, notre sœur, qu'il soit jeune ou moins jeune, qu'il soit homme ou femme, avec des qualités que Dieu a déposées dans sa vie, qu'il manifeste et que tu veux encourager. Ou est-ce qu'on va toujours continuer à regarder ou à attendre le petit point faible qui va se manifester pour savoir lui dire « Ah, tu vois que tu dois encore progresser dans ce domaine. » Être humble, ce n'est pas avoir une mauvaise opinion de soi. C'est plutôt moins penser à soi et davantage aux autres. Les personnes humbles sont plus préoccupées à servir les autres qu'eux-mêmes. Mieux vivre ensemble réclame de la sincérité, de l'humilité et aussi de l'amabilité. C'est-à-dire ce respect des différences et des sentiments de chacun. Nous avons passé une vidéo il y a un mois concernant la communication dans le couple. Et nous voyons dans cette vidéo qui est très bien faite qu'il y a une différence des genres. Une femme pense d'une certaine façon, d'une manière générale, et un homme pense d'une autre façon. Même si un homme peut avoir aussi un côté féminin un peu plus développé en lui, au niveau de sa façon de penser, j'entends, hein, et qu'une femme peut aussi avoir un côté parfois un peu plus masculin développé dans sa façon de penser. Donc, ce sont des généralités. Mais on voit que c'est important d'avoir le décodeur et de bien comprendre la manière dont Dieu a fait la femme, Dieu a fait l'homme, et de la manière dont nous pensons et donc nous exprimons aussi nos sentiments et nous verbalisons nos propos. Et qu'il est important de respecter ces différences. Il y en a d'autres, bien sûr, de différences. Et d'avoir cette patience envers ceux et celles qui nous irritent également. Ça vous arrive jamais d'être irrité ? Un peu ? La Bible dit dans Tite, dans une autre lettre donc d'un autre auteur, Tite, chapitre 3, verset 2, qu'ils, les chrétiens, ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, et qu'ils fassent preuve d'une parfaite amabilité envers tous les hommes. Dans toutes les églises, je ne sais pas combien vous avez fait d'églises jusqu'à aujourd'hui, mais dans les quelques églises que j'ai pu fréquenter, faire, dans lesquelles j'ai vécu, il y a au moins une personne difficile, avec des besoins émotionnels particuliers, des complexes sérieux parfois, des mauvaises habitudes, des mauvaises attitudes. Et le Seigneur place ce genre de personne parmi nous. Ah, il y a deux, trois amen. Seigneur, envoie-nous les personnes difficiles. On est prêts à les accueillir. Enfin, surtout vers lui et vers elle. Moi, j'ai noté ceux qui ont dit amen, je vous enverrai les gens qui sont un peu plus difficiles. Mais réalisons ces propos. Le Seigneur place ce genre de personnes parmi nous, à la fois pour les aider et pour nous former. Elles nous donnent l'occasion de progresser. Elles éprouvent notre esprit d'équipe. Allons-nous les aimer comme des frères et sœurs à part entière ? Les traiter avec dignité ou les rejeter? Car dans une vraie famille, aucun membre n'est rejeté. Il est accepté, protégé, parce qu'il est membre de la famille. Et en réalité, nous avons tous nos particularités. Nous avons tous nos points faibles. Mais la base de notre communion, c'est notre relation avec Dieu. Vous vous souvenez des trois grands axes? Premier axe, avec Dieu. Relation verticale dont nous parlons. Et ça, c'est la base de notre communion. C'est notre relation avec Dieu, pas la relation avec nous-mêmes. Découvrir d'où viennent les gens, apprendre à connaître leur histoire, c'est important. Quand nous aurons appris par où ils sont passés, nous deviendrons peut-être plus compréhensifs et moins critiques. Au lieu de penser à tout ce qu'ils doivent encore faire, apprécions tout le chemin déjà parcouru malgré leurs blessures et leur handicap. Alléluia ! Apprécions tout le chemin qu'ils ont déjà parcouru. Sommes-nous cette communauté où les personnes se sentent suffisamment en confiance pour partager leurs doutes et leurs douleurs sans être jugées ? Paul dira aux Romains, « Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle ! S'il y a bien un endroit où tu peux mettre du zèle, où tu peux être zélé, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est à vous respecter les uns les autres. Mettons du zèle à nous respecter les uns les autres. » Et lorsque nous, je l'ai appris quelquefois à mes dépens, lorsque on pense à soi premièrement au sein de l'Église, lorsque l'on veut imposer ses idées, lorsque l'on veut justifier sa position d'une manière forte, nous allons en devant de difficultés. Je l'ai vécu à plusieurs reprises et je crois que dans sa grâce, c'est cette façon dont Dieu m'a formé, m'a transformé et m'a permis de progresser, d'avancer et de comprendre eh bien, que l'autre est sur ton chemin. L'autre, Dieu a permis qu'il soit sur ton chemin pour t'aider à progresser. Et c'est pour ça que je ne crois pas que l'on peut vivre sa vie chrétienne isolée et que l'Église est appelée à s'isoler. Parce que dans sa grâce, Dieu veut nous aider parce qu'il nous aime, il veut nous transformer parce que c'est ça son but, de nous amener à la ressemblance de Jésus-Christ, d'être véritablement des chrétiens, pas de nom, de cœur véritablement. Et ce qu'il fait, c'est qu'il met des personnes dans notre vie, sur notre chemin, dans nos relations. Et c'est vrai que c'est parfois plus facile d'aller qu'avec des personnes avec qui on s'entend bien. Mais même les personnes avec qui on s'entend bien, parfois, il y a un peu de parasitage sur la ligne. Ça fait plus de 25 ans que je suis marié et il nous arrive encore d'avoir quelques incompréhensions avec mon épouse. Alors là, il faut se rappeler ce que le Seigneur nous a enseigné pour le mettre en pratique, pour parfois, avant de s'endormir, de dire « je te demande pardon », d'avoir une écoute plus attentive de l'autre, d'avoir ce regard où on se regarde vraiment et où on se dit sincèrement les choses pour reconnaître avec humilité que on n'a peut-être pas forcément raison ou on n'a pas bien exprimé un certain propos dans la journée. Et c'est comme ça que le Seigneur nous transforme. Et il nous transforme. Et il nous transforme. Ça arrive avec nos enfants, ça arrive avec la belle famille. Non, ça ne vous arrive pas avec votre belle famille? C'est formidable. Continuez donc à entretenir les meilleures relations avec votre belle famille. Ça peut arriver avec des frères et sœurs. Ça peut arriver avec ton leader en tant qu'équipier. Ça peut arriver à ton travail, à l'école. C'est des réalités humaines de ces relations, mais qui, si nous voulons mieux vivre ensemble, la Bible nous dit, Laurent, il faut que tu fasses preuve de plus de sincérité, d'humilité, d'amabilité. Et enfin, mieux vivre ensemble, l'Église locale réclame des rencontres régulières. Je m'explique. Pour mieux vivre ensemble, développer une vraie communion, nous devons prendre l'habitude de nous réunir, de nous rencontrer, de passer du temps avec les autres, et même beaucoup de temps, pour construire des relations profondes. Si nous ne prenons pas le temps de nous connaître, notre communion fraternelle restera superficielle dans nos assemblées. Les membres ne se réunissent pas uniquement pour écouter la prédication du pasteur. Oui, c'est bien et c'est important, le dimanche matin ou dans des réunions de semaine. Mais la vie communautaire ne repose pas sur ce qui nous arrange seulement, mais sur la conviction profonde que nous en avons besoin pour notre santé spirituelle. Si nous souhaitons vivre une véritable communion, il nous faudra assister aux rencontres, même parfois quand nous n'en aurons pas envie. Parce que nous savons que c'est important. Je l'ai déjà dit comme témoignage dans cette assemblée, mais là où parfois, lorsque j'étais professionnel dans le monde séculier pendant 10 ans, et je me faisais fort d'aller à la réunion de prière, le vendredi soir, c'était dans notre assemblée, et il y avait des vendredis où, après toute une fin de semaine harassante, fatigante, il y a bien un endroit où je ne voulais pas aller, c'était à la réunion de prière. Mais souvent, le Seigneur me disait, Laurent, c'est le rendez-vous où je t'attends avec tes frères et sœurs. Et j'y allais, parfois fatigué, même pas envie de prier, mais j'y allais. Et les moments, parfois les plus intenses que j'ai vécus, où Dieu m'a parlé, où Dieu s'est servi de moi parfois pour parler à quelqu'un, juste au travers de ma prière, même pas un don. Quoi qu'au travers de la prière, des dons peuvent se manifester. Eh bien, c'est les moments où j'ai étaient les plus bénis. Je me suis quelque part un peu forcé d'aller à la réunion de prière parce que je sentais que c'était l'endroit où Dieu m'attendait et où j'ai vécu des moments extraordinaires avec Dieu et avec mes frères et sœurs. Alors, il y a différents endroits, bien sûr, je pense, où nous pouvons vivre cette vie ensemble. Les réunions de semaine, bien sûr, les groupes maison. J'ai entendu tellement de bons témoignages ces derniers temps de ce qui se vivait dans les groupes maison femmes, dans les groupes maison hommes, dans les groupes maison couple. La réunion du groupe maison couple déborde à tel point que nous allons sans doute donc multiplier, c'est-à-dire avoir d'autres endroits où il va y avoir des réunions dans des groupes maison couple. Alléluia! Les groupes maison jeunes également, ils sont en train d'augmenter chez les filles. Ils sont un grand nombre de filles à se réunir. Chez les gars aussi, il y a des groupes maison jeunes. Là, je parle des jeunes, ce qu'ils appellent eux les Gen House. Eh bien, il y a aussi des groupes maison avec des jeunes incroyants. C'est super. Ils se réunissent. Ils ne viendront pas forcément tout de suite les gens à l'église, mais ils peuvent venir dans d'autres types de réunions. Il y a d'autres types de réunions où on peut se rencontrer. Et ça, c'est, on va dire, un peu les réunions, les rencontres qui sont formelles, on va dire. Mais il y a aussi de ces rencontres tellement belles lorsque nous invitons quelqu'un à la maison, lorsque nous prenons le temps d'aller ou manger au restaurant, ou de faire une sortie ensemble, d'aller se promener ensemble, de faire une activité ensemble. C'est prendre du temps avec quelqu'un pour apprendre à mieux le connaître. Alléluia! C'est ça, mieux vivre ensemble. Si nous souhaitons vivre une véritable communion, il nous faudra assister aux rencontres. La communion demande du temps, c'est vrai. Et la vraie communion implique que nous abandonnions notre égoïsme, notre indépendance pour devenir interdépendants. Abandonner notre indépendance pour devenir interdépendants. Je vais terminer avec cette citation que j'ai beaucoup aimée. D'un pasteur américain, fils de pasteur, qui a été le 28e président des États-Unis. Je ne fais pas une interro là pour savoir est-ce que quelqu'un connaît le 28e président des États-Unis ? Prix Nobel de la paix en 1919, qui s'appelle Thomas Woodrow Wilson, et qui va déclarer un jour, écoutez bien ce qu'il dit, votre rôle en ce monde n'est pas seulement de gagner décemment votre vie. Votre responsabilité est d'aider les autres à mieux vivre, à poursuivre de plus grandes visions et à remplir leur esprit d'un profond sentiment d'espoir et d'un désir d'excellence. Vous êtes en ce monde pour l'enrichir. Alléluia ! Nous sommes en ce monde pour l'enrichir. Si vous négligez votre rôle, vous finirez par appauvrir votre propre vie. Notre responsabilité est d'aider les autres à mieux vivre. Et ça, c'est la mission de l'Église locale. Aider les autres à mieux vivre. Dans notre société, dans notre environnement, dans notre quartier, dans notre famille. Alors je conclue en disant que mieux vivre ensemble, l'Église locale, c'est un défi. Ce n'est pas si facile que ça, en théorie ça semble, mais en pratique c'est pas si évident que ça, c'est un défi et c'est un engagement, mais dont les avantages dépassent de loin les inconvénients. Et ce style de vie nous prépare pour le ciel et l'éternité. Alléluia! Parce que nous aspirons tous à vivre cela. Et parfois nous en tant que chrétiens on se dit, un jour de toute façon on le vivra là-haut. Oui, mais le Seigneur dit, tu peux le vivre ici-bas. Et ta mission, c'est de commencer à le vivre ici-bas. Parce que ça va être ta préparation pour l'éternité. Avec ceux qui t'entourent. Avec ton environnement. J'aimerais vous laisser cette question. Comment puis-je aider mon couple, ma famille, mon foyer, mon église locale à mieux vivre ensemble, à développer les quatre caractéristiques ou choix que nous avons étudiés ce matin pour approfondir notre vie communautaire. Alors, ce que je vais vous inviter à faire ce matin, c'est à prendre votre Bible. Si vous le voulez bien, on va prendre notre Bible les uns et les autres. On va l'ouvrir ensemble dans la première lettre de Jean, au chapitre 3. C'est vers la fin de votre Bible. Première épître ou lettre de Jean, si vous avez votre Bible, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas, partagez avec votre voisin. Ça sera une belle attitude de mieux vivre ensemble. 1 Jean chapitre 3. Si tu as ta Bible dans ton téléphone, n'hésite pas à la prendre. Ça ne me gêne pas. Au contraire, mieux vaut que tu aies la Bible dans ton téléphone que pas du tout. Même le pasteur, moi aussi, je l'ai dans mon téléphone, hein, la Bible maintenant. Hein. J'ai une application et ça m'arrange parfois dans les transports en commun ou autre. Tac, j'ai mon téléphone. Et je ne suis pas en train de jouer à un jeu, je ne sais pas quoi, là, mais je suis en train parfois de lire la Bible. Alléluia. Mais là, avec vous, j'ai ma grosse Bible parce que mes yeux commencent à... J'ai des lunettes aussi. Je vous remercie du conseil. Chapitre 3, verset 16. À partir du verset 16, on va lire. Vous l'avez ? Et on pourrait même faire une chose, on pourrait même se lever avec votre Bible. Parce qu'on est à la fin du message. On va lire ensemble ce passage merveilleux, extraordinaire, qui va nous encourager à mieux vivre ensemble, l'Église locale. Vous l'avez tous ce texte ? 1 Jean, chapitre 3, et je lis avec vous, moi dans la version Semeur, à partir du verset 16. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères et nos sœurs. Si quelqu'un possède du bien en ce monde, voit son frère dans le besoin, lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité et que nous rassurons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il ? Écoutez bien, c'est sa conclusion. C'est pour nous ce matin. Que nous commande-t-il ? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous ? De par l'Esprit qu'il nous a donné. Il y a l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné et il y a nos choix, nos engagements, nos défis. On va prier ensemble alors que nous sommes debout. Tu as peut-être, mon frère, ma sœur, été interpellé ce matin par une des caractéristiques, un des choix que tu dois renouveler peut-être ce matin avec l'aide de son esprit, avec l'aide de cet enseignement. Ah oui, Seigneur, je veux mieux vivre ensemble avec l'église locale, avec déjà peut-être mon conjoint, avec mon foyer, avec ma famille. Et ce matin, tu m'as interpellé sur le fait que cela nécessite de ma part de la sincérité. Peut-être pour d'autres, cela nécessite de l'humilité et encore pour d'autres, de l'amabilité. Et pour certains, de se dire, c'est vrai, comment puis-je connaître mieux mon frère, ma sœur, si je ne viens pas suffisamment aux réunions, si je ne participe pas suffisamment, si en revanche, eh bien, je ne prends pas le temps d'inviter quelqu'un aussi à la maison pour mieux le connaître ou de servir avec lui en tant qu'équipier dans tel ou tel service. C'est cela, vivre l'église locale. Seigneur, entends nos cœurs maintenant. Entends le cœur de tes enfants, de ton église locale, qui dit, nous voulons apprendre à mieux servir ensemble, à mieux vivre ensemble. C'est ton désir, c'est le désir de ton cœur, Seigneur, que tu veux placer, réanimer dans notre cœur ce matin. Tu nous as parlé depuis quelques dimanches sur l'importance des relations, sur la nécessité des relations pour que nous ayons un témoignage à la gloire de ton nom. Dans nos familles respectives, dans nos foyers respectifs, dans nos couples respectifs, mais aussi, Seigneur, dans cette famille qui est la famille de Dieu. Parce que, Seigneur, ce qui attirera les autres, les inconvertis, ceux encore du dehors, ceux qui ne connaissent pas encore ton amour, eh bien, ce sera l'amour que nous manifestons les uns vis-à-vis des autres. Dans notre manière d'accueillir, d'accepter, de recevoir, de considérer telle ou telle situation. Seigneur, nous disons ce matin, nous avons besoin de ta grâce. Parce que c'est elle qui peut nous transformer. C'est elle qui peut nous aider à être différents, à vivre ce que tu nous appelles à vivre dans ta parole. Merci, Père, pour le Saint-Esprit. Merci pour ce partenaire quotidien qui vit en nous. Oui, nous sommes tes enfants comme nous l'avons chanté et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation du Dieu vivant. Tu vis en nous et c'est ton esprit qui nous aide à devenir meilleurs. Ce n'est pas notre intelligence seule, ce ne sont pas nos propres aptitudes, capacités, quand bien même tu veux t'en servir. Mais c'est surtout l'aide précieuse de ton esprit en nous. Et nous te bénissons pour cette présence dans la vie de notre frère et de notre sœur. Je te bénis, je te loue pour tous ceux et celles qui sont nés de nouveau dans cette assemblée. Pour tous ceux et celles qui marchent avec ton esprit, qui apprennent à marcher avec ton esprit, qui cultivent ce fruit de l'esprit, qui aspirent au don de l'esprit et qui veulent mieux vivre ensemble dans cette assemblée, mais pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour toucher, pour rayonner auprès de ceux du dehors. Merci pour le témoignage que nous avons entendu ce matin de la part de Tracy. Et d'autres, il y en a d'autres de témoignages. Merci pour tous ceux et celles qui vivent, qui approfondissent leurs relations dans les groupes maisons, Seigneur. Merci pour la croissance de ces groupes maisons, Père. Merci pour cette communauté, cette église que nous formons et qui développe des liens de plus en plus profonds les uns avec les autres. Avec cet esprit d'équipe qui nous anime pour avancer, pour faire face aux défis qui sont devant nous. Père, ensemble, ce matin, nous bénissons ton nom. Et nous voulons encore, avec Nicolas et toute son équipe, chanter, célébrer pour nous séparer ensemble, louer ton nom, chanter ton nom, partir avec, Seigneur, notre cœur rempli d'amour, de foi, d'espérance face, Seigneur, à cette nouvelle semaine qui est devant nous, Seigneur. Tu es avec nous, qui peut être contre nous ? Tu vis en nous, Seigneur, et celui qui vit en nous est plus fort que celui qui vit dans le monde. Merci parce que tu fortifies ton Église encore ce matin dans le nom de Jésus, pour ceux qui sont avec nous comme pour ceux de la famille qui ont pu se joindre à nous. Nous les bénissons en ton nom. Merci pour ce que tu auras communiqué aux enfants ce matin. Merci pour ce que tu auras communiqué aux adolescents ce matin. Merci pour toute la famille que nous formons. Nous ne voulons oublier personne. Gloire te soit rendue, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.